48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Bonjour à tous et bienvenue sur 48 FM pour un magazine spécial. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en direct de la Place Aublet, mais nous avons enregistré cette émission hier soir à l'IUP avec un certain nombre d'invités à l'occasion d'une manifestation qui a lieu aujourd'hui à Mende. C'est le Forum Mobilité. Voilà, une manifestation qui est organisée par l'association Voisine, que nous allons recevoir dans un instant, avec moi autour de la table, Yaël. Bonjour Yaël.
Bonjour.
Et Nico.
Bonjour tout le monde.
Voilà, puis vous retrouverez certaines voix habituelles de la radio, certains que vous entendez déjà relativement souvent, et tout au long de cette émission. Alors on va commencer donc effectivement peut-être avec Voisine, avec donc Evelyne Bouquera et Sarah Huet. Peut-être pouvez-vous nous présenter déjà un petit peu l'association Voisine et comment on arrive au forum d'aujourd'hui.
Alors bonjour, je suis Evelyne Bouquera. Je vous présente d'abord l'association Voisine. C'est une association au départ pour organiser le covoiturage, qui ensuite s'est développée sur tout ce qui est mobilité, que ce soit la mobilité douce comme le vélo et la marche, ou le transport urbain, le train. Enfin, tous les moyens de déplacement qui réduisent la pollution et les encombrements sur la route. Au départ, on avait quand même beaucoup de communication à faire, puisque ça nécessitait quand même beaucoup de changements d'esprit. Il fallait former et informer pourquoi il fallait modifier notre façon de se déplacer. Et petit à petit, on a vu qu'il y avait d'autres personnes et d'autres associations qui travaillaient aussi sur la mobilité, entre autres au niveau social. Et donc, on a commencé à avoir des partenaires, à se faire connaître auprès d'autres structures, à travailler avec des entreprises ou des écoles. Et donc, on aboutit maintenant à quelque chose d'assez homogène et d'assez... étendue en termes de mobilité. On touche presque tous les niveaux de mobilité et c'est pour ça qu'on en arrive à ce forum qui est l'occasion de réunir toutes les structures, associations, partenaires particuliers qui veulent faire quelque chose pour la mobilité et qui ont mis en place des actions et qui souhaitent les présenter. C'est l'occasion demain de faire connaissance avec toutes ces structures et ce qui a été mis en place à Lausanne.
Alors, peut-être, Sarah, peut-être tu peux nous dire un petit peu le programme de la journée de demain.
Un gros programme, Sarah.
Un gros programme, oui, pour ce forum de la mobilité, avec donc un plénière plutôt en focus sur les outils nationaux et les outils régionaux, avec la présence de l'ADEME du Languedoc-Roussillon, avec l'agence Écomobilité de Chambéry, également avec le CT de Méditerranée, Jean-Michel Roussel. Donc, le but était vraiment d'élargir les réflexions, et qu'on puisse voir un petit peu ce qui se fait ailleurs et puis aussi la politique de la région sur la mobilité.
Donc ça démarre à quelle heure ?
Ça démarre en fait, on vous accueille dès 8h30 et puis ça démarre à 9h hein, avec une matinée chargée jusqu'à 12h45. Voilà.
Donc ça aura démarré, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on enregistre donc ça aura démarré.
Ça aura démarré en effet, ça aura démarré. Après donc une pause repas avec des produits locaux et biologiques proposés par le lycée Émile Pétavin, le lycée hôtelier. Et l'après-midi donc deux tables rondes plutôt réflexives sur une partie plus sur l'accompagnement technique des entreprises, des établissements, des administrations. Donc le but est vraiment de réfléchir à ce que ces établissements, ces structures peuvent mettre en place avec des témoignages des actions menées sur le territoire.
On va en parler dans quelques instants.
C'est ça. Et donc plutôt une autre table ronde pour faire et pour réfléchir sur les outils pédagogiques et l'éducation à la mobilité. Donc dans le cadre, entre autres, des réformes sur le rythme scolaire, proposer, voir ce qui se fait ailleurs, donc y compris avec l'agence Écomobilité de Chambéry, de voir ce qu'on peut faire avec le public scolaire.
D'accord.
Entre autres.
Alors, on a le sentiment qu'aujourd'hui, c'est un peu plus mûr. Enfin, de parler de mobilité, est-ce qu'on ne va pas le réduire simplement au transport ou aux façons de se déplacer, de se mouvoir ? Est-ce que ça ne concerne pas beaucoup plus largement d'autres comportements ?
Ah mais en fait, la mobilité, c'est tentaculaire. En soi, c'est un sujet réellement tentaculaire. Exact, parce que on touche à l'urbanisme, on touche au déplacement, on touche à des comportements sociétals, on touche à des habitudes de vie,
à la consommation.
À la consommation. Enfin, c'est vraiment tentaculaire. Donc, on a plusieurs points pour changer nos modes de comportement. Alors, bien sûr, il y a tout l'aspect éducatif, l'aspect ludique, pédagogique. Il y a l'aspect sensibilisation avec les adultes. Après, donc, en Lozère, on est sur un territoire relativement préservé. Il faut savoir ce qu'on veut. Accueillir des nouvelles populations, il faut savoir ce qu'on veut. Comment on les accueille, pourquoi, est-ce qu'elles doivent rester. C'est des questions que, en même temps, quand on soulève la mobilité, on soulève d'autres
d'autres préoccupations,
oui. Et d'autres préoccupations derrière.
Alors, un des exemples que vous évoquiez tout à l'heure, c'était justement ce lien avec l'entreprise, avec le milieu économique. Alors, on va peut-être prendre le témoignage de Monsieur Brun. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Hyper-U. Et donc, vous avez été accompagné par voisine dans un plan de déplacement.
Est-ce
que vous pouvez nous en dire un petit peu en quoi ça consiste, finalement, pour une entreprise donc de commerce. Comment ça s'est passé ? Pourquoi déjà, peut-être, même avant d'aller dans comment ça s'est passé, pourquoi réfléchir à cela ?
Mais d'abord, comment ça s'est passé ? D'abord, c'est une rencontre avec Mme Oquera qui s'est passée. Alors, on a échangé. Je trouvais l'idée assez intéressante, même si elle était au départ, et vous l'avez relevé tout à l'heure, c'est d'autant plus facile actuellement d'en parler qu'il y a 2 ou 3 ans, c'était pas forcément quelque chose d'acquis. En parler à qui et en parler comment, c'est ce qui a été un peu un laboratoire, réfléchir autrement. Réfléchir autrement sur la façon dont on a de se déplacer, ou même la façon différente dont on peut se déplacer. Ça n'a pas été très simple à faire passer, mais ça a permis certaines petites choses à être mises en place. Alors, l'objectif d'entreprise, il a été plutôt, il y a un objectif un peu sociétal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, prendre en compte, au travers d'une embauche, d'une relation avec quelqu'un dans son travail, tout l'environnement, et l'environnement du déplacement est important. Parler du déplacement. Si tu viens travailler, tu viens comment ? Tu sais que tu peux venir en vélo. Ton vélo, tu peux le mettre là. Il est en sécurité. Tu peux repartir en thune. Tu n'es pas obligé d'acheter une voiture pour venir travailler du centre du milieu de Mende. Tu n'es pas obligé de posséder quelque chose. Dans un premier temps, il y a un aspect économique. On va jusqu'à l'aspect réfléchir un petit peu. Ah, tu vis à 5 heures du matin. Tu sais qu'à 5 heures du matin, il y a telle personne qui vient. Peut-être tu devrais te rapprocher d'elle. Peut-être elle pourrait te prendre. Vous pourriez peut-être échanger. Après, il y a l'importance du volet environnemental. Je pense qu'aussi, nous sommes une entreprise qui se veut aussi une certaine modernité. 180 employés. L'exemplarité, c'est quelque chose. Développer l'exemplarité, rechercher et faire avancer une dynamique territoriale, ça nous intéresse aussi. Vous avez soulevé l'importance du territoire, l'importance de protéger aussi ce que nous avons. Tout ça, on peut le faire par une implication, aussi une démarche participative, qui n'est pas facile à mettre en place. Ça a été une très bonne expérience, mais,
très mauvaise expérience.
Le lapsus est révélateur, c'est que ça a été quand même très difficile. À un moment donné, chaque petite victoire est une victoire, chaque petite action est une action. J'ai encore en mémoire une action qu'on a mise en place très récemment, où quelqu'un est venu me voir en me disant « Je ne peux pas décaler mon horaire parce que mon mari, finalement, on vient sur Mende de Pelouse et on vient sur Mende le vendredi, tous les deux, avec 2 voitures et moi, je commence à 8h et lui, il commence à 9h15. Est-ce que je ne pourrais pas commencer à 9h15 ?» Vous voyez, des réflexions. Alors, lever les tabous, permettre les choses, permettre de pouvoir déconstruire un petit peu, enlever une certaine rigidité par rapport à un objectif. Alors les axes principaux qu'on a essayé de mettre en place, c'est des choses simples. Prendre le TUM, mais c'est quoi le TUM ? C'est quels horaires ? c'est mettre à disposition, essayer de sensibiliser les gens sur le fait que prendre le tube, c'est possible. Pratiquer le covoiturage, donc c'est ce qu'on a mis en place, même si ça n'a pas été spontané, mais je sais que en marge de ça, il y a des choses qui sont mises en place même sans qu'on soit réellement au courant. C'est-à-dire qu'elles se sont mises naturellement en place. C'est-à-dire que ça a permis de dire, mais effectivement, je m'aperçois que petit à petit, il y a des gens qui ont réfléchi autrement. Discuter avec son collègue de travail pour dire, mais toi, tu viens de Marvejols, si on pouvait venir ensemble, ou si tu pouvais me prendre le lundi ou le mardi. Essayer d'avoir l'assurance que ça soit possible aussi. Partir à pied, venir en vélo, revenir, partir à pied, revenir...
En vélo, c'est ça, parce que sinon, ça veut dire qu'on a volé un vélo, quoi. Hein, mais,
Partir à
pied... Qu'on l'a acheté,
je
peut-être.
Reprends, je reprends.
Ou qu'on l'a acheté à hyper-U.
Partir, voilà, pourquoi pas. Et un vélo électrique, hein.
Voilà.
Partir à pied, venir à pied et repartir en tube. Venir en vélo et repartir avec son vélo, les choses sont possibles. Attendre au taxi, ça c'est beaucoup plus pour l'aspect client qu'on a mis les choses en place. Prendre une voiture de location aussi, on a beaucoup développé les voitures de location. Moi je suis très étonné, c'est une activité qui se développe énormément, l'activité de location. Et posséder une voiture, c'est vraiment une déconstruction aujourd'hui. Se balade avec une voiture de location est quelque chose qui se met en place. Pratiquer l'autopartage aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce mot autopartage, je crois qu'il y a des choses qui sont mises et on s'est aperçu qu'on n'était pas obligé de tous posséder pour pouvoir avoir. On pouvait autopartager des choses et ça, c'est important.
C'est-à-dire que vous avez mis au sein de l'entreprise des véhicules de l'entreprise à disposition du personnel ou c'est sous quelle forme?
On a surtout incité des gens à... Récemment, j'ai quelqu'un qui me disait « mais je ne possède pas de voiture ». J'habite à Fontanier, mais j'ai dit, mais attendez, vous louez, quand vous avez besoin d'une voiture, vous n'avez pas besoin de posséder une voiture. Et à un moment donné, vous pouvez venir presque en vélo, vous pouvez venir tous les jours en vélo de Fontanier, repartir en vélo ou par le tunnel, vos horaires vous permettent. Pas à venir parce que le matin, ça va être très tôt, il n'y a pas le tunnel. Et puis, je veux dire, aujourd'hui, on a des tarifs de location pour un week-end, vous pouvez prendre un véhicule pour un week-end à Montpellier, ça vous coûtera... temps par week-end. Donc, je veux dire, à un moment donné, combien coûte un véhicule par rapport à ce qu'on
a... À l'année, avec les frais, l'amortissement du véhicule.
Voilà, c'est ça. Essayez d'en parler.
Et vous avez le sentiment que les gens prennent conscience vraiment de ça au sein de votre entreprise, pas de la clientèle, hein.
Alors, c'est comme toute action. Je veux dire, à un moment donné, il faut être volontariste. Il faut y croire, même si des fois, il y a toujours des freins, parce qu'il y a quand même des freins. Il faut déconstruire certaines choses. Mais petit à petit, je m'aperçois que les choses évoluent, elles se réfléchissent autrement. Et honnêtement, arriver en vélo à une entreprise il y a 15 ans, il y a 30 ans quand j'ai commencé à travailler, je crois que ça aurait été un peu marginal. Voilà, c'était un peu le mot, ça aurait été un peu le gars qui arrive en vélo, ça aurait été un marginal. Aujourd'hui, celui qui arrive en vélo, c'est quelqu'un qui a un aspect pratico, c'est quelqu'un qui a un aspect malin des choses aussi. Et c'est quelqu'un qui a sa place aussi, comme les autres. Voilà.
Et ça concerne tous les employés d'Hyper-U. Tout le monde joue le jeu, finalement, alors, de cette démarche aujourd'hui.
On ne peut pas savoir si tout le monde joue le jeu ou pas tout le monde joue le jeu, parce que c'est une action volontaire. Donc, ce n'est pas facile à mettre en place. Peut-être aujourd'hui, il y a un petit nombre qui commence à jouer le jeu, qui commence à réfléchir autrement. La personne qui joue le jeu, c'est déjà la direction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, permettre d'en parler, c'est déjà de jouer le jeu. Et permettre de dire que c'est possible, de demander une modification d'horaire pour s'adapter à l'horaire de son voisin, sans que ça modifie les horaires des autres, c'est déjà jouer le jeu. C'est à ce niveau-là qu'on joue le jeu.
D'accord.
On avait eu de très très bons retours, nous, concernant l'enquête du PDE, puisque ça fait partie donc du diagnostic et de la méthodologie. On avait eu un taux de retour extrêmement fort, donc c'est-à-dire que sur les 180 personnes, on avait eu plus de 101 ou 102 retours. Donc on avait vraiment aussi ce relais en interne auprès de la direction qui a fait que les salariés ont réellement répondu. Puisque c'est quelque chose qui peut être problématique dans les PDE, c'est de ne pas réellement avoir les retours des salariés. Et là, ils ont eu quand même l'espace pour s'exprimer. Ça nous a réellement permis à mettre un plan d'action qui les concernait.
Ah, et alors aujourd'hui, une autre entreprise, autre que Ripéru, souhaite s'engager dans cette démarche. C'est un accompagnement que Voisine peut proposer.
Tout à fait.
Ouais, alors comment ça se passe en quelques mots?
Actuellement, on travaille sur la zone artisanale du Côte d'Auge et on travaille avec toutes les entreprises qui sont actuellement implantées sur le Côte. Et on fait, ça s'appelle un plan de déplacement de zone. C'est un peu plus léger, on rentre moins dans le vif de l'association, de la structure d'entreprise. Mais ça permet de mettre ensemble des actions communes qui serviraient pour tout le monde.
Très bien.
Alors ça, c'est la partie... interne à l'entreprise. Est-ce que sur la partie clientèle, c'est-à-dire sur les échanges, sur la façon de venir à Ipéru, est-ce que vous mettez en place des choses ou est-ce que vous réfléchissez pour l'instant à ce qui pourrait être fait en mutualisant aussi peut-être sur les produits que vous vendez, puisqu'il y a aussi un problème de proximité, donc je sais que vous avez déjà une politique locale assez importante. Est-ce que vous continuez à réfléchir sur cette proximité des produits et sur comment on peut faire pour mutualiser, pour éviter que les gens se déplacent avec leur véhicule seul pour aller faire leurs courses?
Voilà. Alors il y a un aspect qui est arrivé commercial qui est nouveau et qu'on découvre un petit peu, c'est le e-commerce alimentaire. C'est nos clients qui nous ont un peu indiqué la voie, il faut le savoir. Et une des particularités, c'est qu'un client, un consommateur e-commerce alimentaire va avoir son panier moyen à peu près 3 fois supérieur. C'est-à-dire qu'il va prendre pratiquement 3 fois la valeur que ceux qui viendraient acheter en magasin. C'est-à-dire qu'il va se déplacer une seule fois au lieu de se déplacer 3 fois pour des questions pratiques souvent. Et donc ça évite pas mal de déplacements. Après, effectivement, l'aspect local, vendre des produits locaux... Aujourd'hui, réfléchir à un approvisionnement direct de Quézac via Quézac Mande, c'est pas si simple que ça, mais ça se fait. Mais il faut savoir que c'était pas naturel parce que dans nos comportements d'achat, aujourd'hui, Quézac approvisionne une centrale d'achat qui est à Vandarc et pas à Mande. Donc tout ça, c'est des choses qu'un consommateur peut se demander pourquoi on ne monte pas du Quézac alors qu'on est un quart d'heure.
Mais je pense que même le client pense que la Quézac, vous allez la chercher carrément, quoi, voilà. À la source, ou pas loin.
Voilà,
quoi.
Voilà,
c'est un peu ça, non?
Mais
c'est pas du tout client, ça, en fait.
C'est pas du tout ça, mais c'est ce qu'il faut peut-être un peu...
Un peu réfléchir, ouais, changer.
Alors, on va vous remercier de votre participation à cette table ronde. Et je vais peut-être réinterroger Voisine avant de conclure cette première partie. Peut-être sur les autres actions qui sont tournées autour du covoiturage. C'est comme le disait Mme Boukara tout à l'heure, c'était votre début, en fait, finalement, de l'activité de Voisine. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un petit peu les choses que vous proposez autour de ça?
Alors, autour du covoiturage, entre autres... Bon, pour donner un petit état des lieux, il faut savoir que donc, la plateforme existe depuis 2009. Et en gros, si on fait un petit constat de l'évolution des personnes qui sont inscrites et des trajets proposés, en 4 ans, on a 13 ou 14 000 personnes de plus qui se sont inscrites sur le site et qui ont proposé des trajets. Donc on est une plateforme départementale et donc on reste à cette ampleur départementale. Mais on voit bien en effet que... L'évolution des mentalités a fait que cette pratique est de plus en plus utilisée.
Est-ce qu'il y a des endroits où le covoiturage fonctionne mieux sur la Lozère que d'autres ?
Complètement. Complètement. Et c'est justement aussi par des actions de sensibilisation qu'on essaye justement qu'il y ait des zones, on va dire, où ça se pratique moins et de sensibiliser la population. Par exemple, dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, on fait jouer la pièce de théâtre Madame Voisine, opération covoiturage, jouée par la compagnie du Lézard. Et donc le but, justement, après cette pièce de théâtre, c'est de faire un débat, de parler, d'échanger sur nos pratiques de déplacement, y compris pour développer le covoiturage. Donc là, cette année, par exemple, il était joué à Fournels, à La Canourgue et à Sainte-Croix-Vallée-Française. Donc il faut savoir que dans certains endroits, par exemple à Sainte-Croix, le covoiturage s'organise déjà de manière, on va dire...
Autonome.
Voilà, non officielle, non par site, puisque c'est un système D qui se met forcément en place quand on est éloigné. Mais on voit que quand même ça suscite l'intérêt de se dire « je ne le propose pas forcément d'un endroit à un autre ou... ».
On est allé à La Canourgue la semaine dernière et depuis il doit y avoir 4 ou 5 trajets qui partent ou qui arrivent à La Canourgue et qui ont été ajoutés. Donc c'est quand même, il y a quand même un impact d'aller présenter la pièce de théâtre à droite et à gauche.
Voilà, alors peut-être vous pouvez rappeler votre site internet, la façon dont on retrouve toutes les informations justement pour les covoitureurs et puis peut-être aussi pour l'actualité de l'association, toutes les choses qui peuvent être faites grâce à votre association.
Donc on a un site internet, c'est www.voisine48.fr. Donc où il y a quelques nouveautés sur le site avec justement la barre de recherche pour le covoiturage maintenant qui est dès la page d'accueil, qui était une grosse demande des usagers. Et où vous pouvez trouver en actualité tous nos partenariats.
Peut-être dire aussi que ce covoiturage, il ne s'arrête pas juste à la frontière lausérienne. Vous avez quand même c'est pas pour polémiquer, mais vous avez quand même un super concurrent.
Blablacar.
Ben oui,
Blablacar. C'est payant.
Oui, c'est payant, mais ça reste un concurrent quand même.
Il y a covoiturage libre, par exemple, qui peut être un concurrent. Covoiturage libre est une plateforme gratuite.
Alors pourquoi aujourd'hui on est plus sur du... Pourquoi les gens ont plus de facilité à aller sur Blablacar et moins sur Voisine? Est-ce que vous avez pu mesurer ça ou est-ce que...
Blablacar, c'est national, c'est même européen, puisqu'ils se sont largement agrandis sur toute l'Europe. Et donc c'est connu,
SNCL,
c'est beaucoup plus ancien que Voisine. Ah. Voisine, c'est vraiment local, c'est pour la Lozère, au sein de la Lozère. Alors que Blablacar, c'est souvent utilisé pour les grands trajets. Mais on s'est rendu compte...
C'est complémentaire, d'une certaine façon.
Mais bien sûr que c'est complémentaire, on s'en sert, mais Blablacar, c'est 50 salariés, c'est... on est allé aux rencontres du covoiturage, on parle de chiffres d'affaires, de mains levées, de combien ça peut rapporter, etc. On n'est pas du tout sur les mêmes... On va se servir de Blablacar pour des trajets qu'on ne pourra pas avoir, de la même manière que d'autres pourraient se servir de Voisine pour d'autres trajets. Mais la politique de l'association est de proposer une plateforme gratuite et que les personnes puissent s'inscrire et trouver ces trajets gratuitement.
Mais là, il n'y a pas que la plateforme qui est payante. Enfin, sur Blablacar, ils prennent un pourcentage, mais c'est surtout les gens qui convoiturent, qui prennent une participation qui correspond, on va pas dire à des frais réels, qui correspond à des frais de mutualisation. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance comme ça aujourd'hui aussi à faire en sorte que tout ne soit pas gratuit, mais qu'il y ait un vrai coût à partager, puisque quand on parle de l'autopartage, c'est aussi on partage aussi les coûts, c'est pour ça que ça revient moins cher.
Qu'il y ait un vrai coût, je suis d'accord, mais en fait... Là, je vais parler à titre personnel et pas à titre de l'association, mais en travaillant dans l'écomobilité, j'ai une sensibilité là-dessus. C'est on a donné l'habitude aux gens de se servir d'une plateforme très ergonomique avec énormément de flux. Ouais. Et donc les personnes ont ce réflexe d'aller sur Blablacar. Au départ, c'était gratuit.
Ensuite, racheté par SNCF et c'est devenu
avant, payant. Même avant, hein, c'était déjà payant, mais voilà, donc ça a permis justement à ce qu'il y ait d'autres intérêts derrière. Et le fait de dire que tout n'est pas gratuit, je pense que c'est important. Par exemple, des systèmes de participation libre, bon, là pour le covoiturage ça va être compliqué, mais des choses de ce type-là où
on le faisait avant, de toute façon.
On le faisait avant, mais ça peut être compris parce que derrière, il y a du personnel, il y a des gens qui passent du temps et ça ne prend pas non plus. Par contre, le système très économique qui a été mis en place ne me correspond pas. En termes éthiques, ça ne me correspond pas.
Bien, voilà. Bon, je crois que les choses ont été clarifiées sur le positionnement. Donc, le site de voisine.fr, c'est ça?
C'est ça, tout à fait.
Voilà, on retrouve pour les déplacements, effectivement, qui concernent plutôt un cadre lozérien ou de la Lozère vers éventuellement Montpellier, Clermont-Ferrand. Voilà. Voilà. Et donc, poursuivre aussi les activités de l'association sur le site.
C'est ça, tout à fait.
Bien, ben écoutez, on va passer une petite page musicale et on se retrouve tout de suite après pour parler de mobilité sociale. I heard about a tiki-tiki boy, he had a famous tiki-tiki toy. Don't try, don't go, oh no, 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 no. I heard about a tiki-tiki boy, he had a famous tiki-tiki toy. Don't try, don't go, oh no, 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 no. The other people really, really joke about his curious tiny, tiny stroke. Don't try, don't go. No, 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 no. You
there, city, city, tell you come in first. You have someone I can trust, don't try, don't go. Oh, no, 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 no. The other people we really joke about is curious, tiny, tiny stroke, don't try, don't go. Oh, no, 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 no. Try, don't go. Oh, no, 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 no.
48 FM Le Mag.
On se retrouve sur 48 FM pour la deuxième partie de ce magazine spécial consacré à la mobilité, mobilité en Lozère, mobilité aussi ailleurs. Et notre deuxième partie est plutôt consacrée à ce qu'on va appeler les mobilités sociales avec deux invités. Le conseil général représenté donc par Céline Béal qui est en charge de l'insertion. Et puis l'association Alloès qui représente plein d'autres partenaires d'un projet, c'est ça ? Enfin au moins deux autres partenaires.
Oui, bonjour. Aussi l'association Quoi de Neuf. Et puis voilà, après on parlera aussi du partenariat avec la Maison de l'Emploi.
Voilà.
Ils sont partout.
Alloès avec nous aujourd'hui.
Bien, alors peut-être on va commencer peut-être avec Céline, peut-être sur la présentation un petit peu de justement comment le Conseil général, c'est une de ses missions principales, c'est le social, et comment il accompagne au travers des mobilités cette compétence du social.
Alors.
La question est peut-être difficile, hein, mais...
Vous pourrez répéter la question.
On avait dit pas de question piège. Ah oui, on va dire sur plusieurs axes. Je vais dire un mot sur le transport à la demande qui a été mis en place en Lozère auprès de 15 communautés de communes l'ont mis en place. Donc le transport à la demande, c'est un transport... Qui permet trois financements, un financement multiple, un tiers, on va dire, un tiers l'organisateur, un tiers le conseil général et un tiers l'usager, le demandeur.
Sachant que l'organisateur, c'est essentiellement des communautés de communes.
Voilà,
hein.
C'est ça.
Voilà.
Des communes.
Je crois que c'est 15 communautés de communes, en l'occurrence.
15 communautés de communes.
Il n'y a pas de communes.
Au travers des communautés de communes.
D'accord. Voilà. Oui, mais seul, il n'y a pas de commune seule. D'accord. Je croyais.
Voilà.
Comment couper une émission ?
Alors, on utilise le transport à la demande dans quel cas ?
Donc, c'est plutôt des personnes. C'est plutôt pour les personnes âgées, pour répondre un peu à leurs besoins de déplacement.
Voilà. Donc, pour aller,
il n'y a pas de personne seule perdue dans la forêt sans voiture. Ça n'existe pas.
C'est pas trop.
C'est pas la cible.
Pour l'instant, le transport à la demande, non. C'est pas
d'accord.
Voilà. Donc, l'objectif, le principe, c'est qu'on prend rendez-vous pour avoir un transport.
Voilà,
c'est le principe du à la demande, c'est-à-dire que ce n'est pas une ligne régulière, mais c'est un système...
Mais ça se fait sous quelle forme de taxi, c'est ça ?
Oui, voilà, c'est les communautés de communes qui assurent ce service-là et qui le délèguent souvent, effectivement, à une société de taxi pour l'effectuer sur le terrain. Voilà, et c'est chaque communauté de communes a un système spécifique, je crois, qui permet, avec un numéro de réservation, et tout ça se retrouve sur le guide des transports qui est sur le site du Conseil Général.
Exactement. Voilà.
Alors peut-être un autre mode de d'intervention et de mobilité pour
du Conseil Général. Alors après plus donc là on a parlé d'un peu des personnes âgées, donc plus pour le public en insertion. Donc là ce qui est fait c'est en termes d'aide financière. Donc pour les jeunes ou les personnes bénéficiaires du RSA ou les salariés avec des revenus modestes. On peut les aider, alors financièrement, soit dans des réparations de voitures, soit aussi pour la prise en charge d'un trajet en train, en bus ou en taxi pour se rendre, par exemple, je vais donner un exemple.
Un rendez-vous pour un emploi, c'est ça ?
Un rendez-vous pour un emploi, mais aussi, par exemple, pour aller, par exemple, donner les enfants au conjoint. Qui serait en dehors de la Lozère, par exemple, qu'on n'a pas les moyens de financer ce trajet.
Pour faire ce lien-là, oui.
Ça peut être aussi pour, pour aller au tribunal, pour une audience. Voilà.
Et donc là, on est dans des choses qui sont de façon récurrente, ou on est dans quelque chose qui dépend d'une situation très précise à un moment.
Très ponctuel.
Très ponctuel. Voilà. Et l'entrée se fait par les travailleurs sociaux.
C'est ça, exactement. Il faut aller voir son travailleur social.
Moi, si j'appelle le CG demain, dire vous ne pouvez pas m'amener à Clermont, chez le toubib, ils vont me dire non, quoi.
La première chose que je vais te demander, c'est où est-ce que tu habites.
D'accord.
Et je vais t'orienter vers l'assistante sociale qui intervient sur le secteur. Et elle verra avec toi quel besoin tu as, dans quelle situation tu es. Et elle sollicitera les aides qu'il faut pour t'aider.
D'accord.
Et pour t'adapter la réponse à ta demande. Ça, c'est une première partie, voilà, un peu en aide financière.
Pour les plus jeunes, avec la mission locale aussi.
Voilà, exactement. Ouais. Voilà.
Les moins de 26 ans.
Donc là, ce serait... toi, parce que tu es un adulte, je vais t'orienter vers une assistante sociale.
Pas de moins de 26 ans, je te rassure.
un adulte de moins de 26 ans, j'aurais orienté vers la mission locale à la
d'accord,
maison Solène.
Ouais. D'accord, il y a des priorités en fonction de l'orientation, en fonction de l'âge.
C'est juste.
D'accord.
Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé deux conventions avec les lycées Émile Peytava à Mende et le lycée de l'enseignement privé Saint-Pierre-Saint-Paul à Langogne. Pour permettre l'accès aux bénéficiaires du RSA ou aux jeunes de moins de 26 ans à leurs ateliers. Ils ont des ateliers, donc à Mende, c'est un atelier mécanique, et à Langogne, c'est mécanique auto, pardon, et à Langogne, c'est auto et moto. Donc ça permet deux choses, ça permet un coût moins élevé, voilà, et ça permet aussi d'avoir une expertise. De la voiture, on n'a pas eu encore la moto, mais voilà, de la voiture, pour savoir s'il vaut mieux réparer ou s'il vaut mieux changer. Voilà, selon l'état, en fait.
D'accord. Mais ça ne concerne que les expertises.
Pardon ?
Ça ne concerne que les expertises.
Non, ils font les travaux derrière.
Ah d'accord, ils font les travaux. D'accord.
Selon les lieux.
Donc, ça pardon, vas-y.
Non, ce qui est pertinent dans ces cas-là, c'est qu'en fait, des fois, les personnes, elles amènent une première fois la... Les personnes amènent une première fois la voiture, elles demandent une aide pour une réparation. Et quand la réparation a été faite, quelques temps après, on s'apercevait qu'il y avait de nouveau une autre réparation. Donc là, le fait d'avoir une vision globale du véhicule permet d'éviter
un diagnostic et un pronostic.
Oui,
ta bagnole ne va pas durer longtemps, même si on la répare.
Et puis on est dans un cadre non commercial. Donc à la limite, la personne n'a pas forcément...
Et dans quel délai Et dans quel délai? Parce qu'on sait que dans l'établissement scolaire, comme ça, c'est pas souvent...
Alors oui, on est soumis à ça, c'est-à-dire les vacances scolaires, les examens aussi, genre juin, ils sont en examen, ils ne sont pas. Et puis le niveau des élèves. Voilà, donc ça, ils ne vont pas
tout réparer. Voilà, ils ne vont pas pouvoir tout réparer puisque c'est en fonction un peu des élèves qui vont faire les réparations avec le chef atelier. Mais après, ça peut être très rapide puisque, donc pareil, hein, ils vont voir, le demandeur va voir ou la mission locale ou une assistante sociale du conseil général ou de la MSA. Enfin, ensuite, la demande nous arrive et nous, dans un délai de 24 heures, on la valide.
D'accord, la demande. C'est assez rapide.
Entre ouais. En fait, on valide la démarche d'aller à la plateforme ou d'aller au lycée faire réparer son véhicule. Et ensuite, il y a les... il prend rendez-vous directement avec...
Cette démarche existait déjà. Enfin, moi, j'ai déjà fait réparer ma bagnole au lycée technique. Qu'est-ce qui change, en fait ? C'est votre prise en charge, c'est ça ?
Exactement. Derrière, il y a le financement.
À hauteur de combien ? L'intégralité ou un pourcentage ?
Non, ce n'est pas un pourcentage. C'est nous qui demandons l'expertise, c'est nous qui prenons en charge. Si c'est... Et après, on fait un financement, puisqu'après, donc, il y a des tarifs selon ce qui est fait. Et nous, on aide sous forme d'une aide financière et on laisse une participation à la personne d'un maximum de 50 euros.
D'accord.
Et nous, on prend la différence. Si on s'engage, si on a validé la démarche, on payera derrière.
D'accord. Oui, si c'est 50 euros max, c'est vrai que c'est intéressant.
Pour lui parler, oui, parle de public en difficulté financière, oui, bien sûr.
Sachant que pour ce public, 50 euros, c'est quand même un geste financier qui est quand même significatif. Voilà. Mais c'est aussi le...
C'est un mois de salaire en Chine. 60 euros.
Toi, tu nous l'avais pas dit que tu faisais réparer ta voiture au lycée.
Non, c'était à l'époque. J'étais pauvre. Hein. Je suis pas plus riche. Hein. Enfin, intellectuellement.
En Chine.
Bien, alors,
Et puis peut-être aussi, peut-être avant ça se faisait, mais peut-être pas lycée public en difficulté, en insertion, peut-être c'était un peu exclu de tout ça. Là, maintenant,
c'est officialisé. C'était un réseau, c'est-à-dire qu'en fait, on faisait ça surtout pour amener un job aux
élèves.
Quand on ne le faisait pas, on laissait ça casser une semaine, 15 jours, 3 semaines des fois, parce qu'ils n'avaient pas le temps. Voilà, mais c'était plus pour l'exemple.
Bien, alors peut-être la troisième action, c'est plus un soutien des acteurs du territoire. On va peut-être laisser la parole à Solène Dépinay, c'est ça ? Je ne me trompe pas. Pour
la troisième fois.
Pour l'association Alloès. Peut-être vous pouvez nous présenter un petit peu ce que fait Alloès, mais on vous avait effectivement déjà reçu. Et finalement, la partie mobilité dans ce travail d'insertion.
Alors Alloès, c'est une association intermédiaire qui propose des missions de travail à des personnes qui n'arrivent pas à accéder à l'emploi de façon directe. Donc je vais faire court sur Alloès et l'association intermédiaire, puisque c'est quand même le cadre, c'est elle qui porte, mais c'est quand même de là qu'est partie notre réflexion sur la mobilité. C'est que chaque année, sur nos, on constatait un fort problème de mobilité des salariés qu'on faisait travailler. Et ce qu'on voulait, c'est que ce soit accessible à tous et pas seulement à ceux qui sont centrés sur Mende, Marvejols, sur les lieux où il y avait de l'emploi. Donc parfois on allait chercher les personnes pour qu'elles puissent avoir accès aux missions et c'est vrai que ça on pouvait pas toujours le faire et en même temps à chaque fois ça avait du sens. Et à force de le dire, et puis en même temps avec une... je pense que la directe a été à ce moment-là, la directe direction du travail a été... a entendu nos appels. Je pense qu'il y a plein d'autres associations qui le faisaient aussi et qui nous a dit en 2008, on vous propose de mettre en place une action qui réponde justement à ces demandes qui relèvent d'Alloès, mais pas que. Donc c'est à ce moment, enfin dès le début en 2008, on a dit OK, on savait pas trop dans quelle direction on irait, mais tout de suite on a dit d'accord si c'est avec l'association quoi de neuf, parce que c'est vrai que de couvrir tout le département de la Lozère, c'était quand même c'était un gros chantier. Et quoi de neuf sur le sud de Lozère le faisait déjà. C'est-à-dire qu'il prêtait déjà un véhicule à des personnes à la journée. Il débloquait parfois des aides dans l'urgence aussi. Donc on a voulu le faire avec eux. Et on a mis en place un système de prise de la demande qui soit assez homogène sur l'ensemble du département, mais avec des réponses qui sont quand même différentes entre le nord Lozère et le sud Lozère. Et nous, on a décidé d'embaucher une animatrice mobilité dès le départ, qui était un animateur mobilité d'ailleurs à l'époque. Et pour que ce soit vraiment...
devenue animatrice entre temps, c'est ça, j'ai compris comme ça ta phrase.
J'ai pas dit ça, j'ai vêtu des formes quand même.
C'est ça la mobilité.
Ils vont être contents s'ils entendent l'émission.
C'est ça la mobilité, d'accord.
Et voilà, pour vraiment que ce soit une personne qui prend en charge complètement cette action. Et en fait, on accueille toute personne qui a des difficultés de mobilité. Alors, soit les personnes viennent de façon directe parce qu'elles en ont entendu parler, mais la plupart des personnes viennent quand même par les partenaires. Donc, les partenaires, c'est qui ? C'est les associations avec qui on est habitué à travailler, les assistantes sociales. Donc, dans les associations,
il y a le...
Comment ?
Ils viennent comment ?
Ah voilà, mais ça c'est une bonne question. Je vais finir quand même sur les partenaires parce que c'est indispensable sur notre action. Mais donc que ce soit les assistantes sociales, les associations comme Alter, la Mission Locale, la Traverse, la IPPH, enfin voilà, autant d'associations, le CRIF, le SPIP aussi nous orientent des personnes. Et...
Juste peut-être pour les non-initiés, pour le
oui,
SPIP,
pardon.
Le CRIF, le SPIP,
oui.
La Direct.
Alors, par contre, je vais être très mal pour vous donner la...
le service pénitentiaire.
Alors, le CRIF,
c'est Carrefour Recherche, Information et Formation.
Français.
C'est une association qui est à Alès, qui intervient en Lozère pour accompagner des bénéficiaires du RSA pour nous, dans le cadre du programme départemental d'insertion, ou des demandeurs d'emploi dans leur, pour les aider à construire un projet professionnel et les aider à rechercher un emploi dans les techniques de recherche d'emploi. Pour le CRIF, c'est ça.
Après, le SPIP ?
SPIP, service pénitentiaire d'insertion et de probation. Voilà. Là, c'est bon. C'est du coup l'accompagnement des personnes qui sortent de prison ou alors qui ont des peines aménagées. Donc, par exemple, voilà, ça a été aussi d'accompagner des personnes sur des entretiens pour des formations, puisque elles étaient incarcérées. Pour les dernières personnes auxquelles je pense, elles étaient incarcérées, donc aucun moyen pour se rendre, même avec leur autorisation de sortie, pour se rendre à l'entretien. Donc voilà, on a pu intervenir pour ça, parce que j'ai pas dit que nous, pour l'instant, depuis 2008, l'action mobilité porte que sur les démarches d'insertion professionnelle et de formation. On aimerait vraiment l'étendre, mais pour l'instant c'est le cadre. Et du coup, comment viennent les personnes ? Alors, les personnes qui sont sur Mende viennent au bureau. Par contre, nous, on se déplace dès qu'il y a une demande. Donc là c'est une des différences, par exemple, avec l'association Quoi de Neuf. Mais nous, vu qu'on a une personne qui est référente sur sur l'action, on se déplace pour aller rencontrer les personnes, sauf certains cas. Par exemple, je pense à...
Il est à moins de 50 mètres, par exemple.
Ah non, mais c'est au bureau, on les accueille au bureau. Mais par exemple, l'autre jour, il y avait une conseillère de la mission locale qui appelle parce qu'elle accompagnait une jeune qui l'après-midi même ne pouvait pas aller au travail, sa voiture, plus d'essence. Donc ça veut dire que l'emploi est remis en question complètement. Nous, quand on sait qu'il y a un accompagnement qui existe déjà, là, ça a été de débloquer une aide pour que la personne puisse mettre de l'essence dans sa voiture et aller au travail. Voilà, ça peut être donc c'est toujours, il y a deux niveaux. Il y a toujours une partie dans l'urgence pour qu'on débloque la situation et que l'emploi ou la formation ne soit pas mis en péril. Et un deuxième volet qui est toujours la volonté que ça dure. Et c'est pour ça que ça peut être aussi bien du covoiturage. Donc on est d'ailleurs à l'OS adhérent à l'association voisine pour aussi rechercher des trajets sur le site. Ça peut être le temps du déblocage de, par exemple, de la réparation de la voiture, un hébergement sur place. Ça peut être autant de solutions que de situations. À chaque fois, c'est du sur mesure, en fait. Donc on est soutenu donc par le Conseil général et la Directe. Et voilà.
On va peut-être justement proposer à Céline de nous dire comment justement cette action-là trouve sa place dans l'ensemble de la stratégie par rapport à l'insertion des publics en insertion en Lozère. Enfin voilà, le regard du financeur sur cette action-là.
Alors, le financeur.
Nous.
Le regard, on dit non.
Nous, on a une convention avec LOS Quad 9.
C'est un partenariat.
Voilà. Et ils font partie du programme départemental d'insertion. Donc, c'est dans ce cadre-là. Voilà. Et nous, on travaille beaucoup. C'est les assistantes sociales qui travaille beaucoup voilà, avec Alouas ou Quoi de Neuf.
Est-ce que vous couvrez les besoins, en fait ? Est-ce que vous avez le sentiment de couvrir les besoins ou pas vraiment ? Est-ce que vous avez recensé une grosse demande pour l'instant ou pas ?
Ah bah, oui, après, on ne couvre pas tout, et c'est pour ça qu'on réfléchit aussi à le faire évoluer toujours. Ce qu'on couvre déjà, ce qui a permis quand même de lever des gros freins qui existaient, c'est que par exemple, quand il y a des aides de droit commun qui sont possibles, mais qu'elles ne peuvent pas être débloquées tout de suite. C'est vrai que le fait qu'Alouas puisse intervenir, on intervient parfois justement en avance de cette aide, et après on se fait rembourser par le Conseil général.
C'est une avance de trésorerie.
Bah, oui. Pour certaines personnes, oui. Parce que l'idée, c'est surtout pas de remplacer les dispositifs de droit commun. Au contraire.
L'intervention en urgence, ça, c'est primordial, quoi.
Oui, c'était le cas de tout à l'heure. Et j'ai plus d'essence et je peux plus aller travailler. Alors que ça va dépendre. Enfin, ma présence ce jour-là est signe de. Enfin, et gage de poursuite. Donc, c'est sûr que c'est un élément.
Et c'est vrai que parfois, ça demande aussi d'avoir une réactivité qui est. Là, vendredi soir, on avait une demande pour une personne qui avait une voiture en panne, sûrement, mais qui habitait Marvejol, en plus, avec un enfant. Il fallait trouver une solution pour l'amener tous les jours. Le covoiturage, c'était pas possible parce qu'il fallait amener l'enfant d'abord à l'école à un endroit de Mende. Après qu'elle aille en formation, et en fait le covoiturage, on l'a essayé avec deux personnes, ça fonctionnait pas, et au final on a trouvé une solution d'hébergement sur Mende le temps que la voiture soit réparée. Bon ben voilà, c'est des choses, soit ça s'enchaîne bien, soit pas, mais ça veut dire que si ça s'enchaîne pas bien, la formation elle peut être mise en question, quoi.
Voilà. Mais ce qui est bien en fait, c'est qu'il y a un gros partenariat qui fonctionne bien maintenant, donc parce que les structures se connaissent et il y a une réactivité et ça permet de répondre aux besoins des personnes très rapidement et c'est vraiment du sur-mesure fait à chaque fois. C'est ingénieux et il y a toujours une solution qui est apportée à la personne.
Et puis quand on n'en a pas, on les emmène. Voilà. Donc là, demain matin, 8h moins le quart, Camille Devresse part emmener quelqu'un à sa formation sur Javol puisqu'il a loupé la première journée aujourd'hui et que demain il n'y a plus de navette. Bon bah demain, elle l'emmène et puis après, il y a l'internat, il y a les navettes et ça se remet en route. C'est vraiment, ça débloque la situation pour demain.
Alors, merci à l'économie sociale hein, encore qui vient pallier un certain nombre de manques.
Oui, c'est ça. Après, ce qui est intéressant dans ce qui a été dit tout à l'heure dans les intervenants précédents, c'était de dire aussi qu'on est tous... on doit tous être vigilants aussi à sa façon de faire et nous quand par exemple on accompagne une personne à tel ou tel endroit, on essaie de voir aussi s'il n'y a pas d'autres personnes à emmener ou par exemple sur les trajets quand une personne fait du stop, eh ben, nous on estime que ça relève de nous aussi de s'arrêter même quand on est pressé et que voilà. Du coup, c'est vraiment une dimension qui est au-delà de notre... J'aimais bien ce qui avait été dit tout à l'heure, c'était de dire que des fois, on a notre périmètre d'intervention, mais finalement, la mobilité, c'est très, très large. Et c'est en ça que le projet qu'on a actuellement avec la Maison de l'Emploi et avec, on espère, avec l'association voisine... sur la création d'une agence départementale de mobilité, c'est vraiment l'idée, c'est-à-dire de mettre toutes nos forces dans une même action, mais chacun avec son intervention spécifique. Je pense que ça resitue aussi chacun dans son domaine d'intervention où il est bon, et en même temps, ça a vraiment une portée qui est beaucoup plus forte, quoi. Et je pense qu'on a tout intérêt à unir nos forces, et on n'a peut-être pas été bon là-dessus jusque-là, donc on a envie de l'être, en tout cas, c'est ce qu'on espère pour 2014.
Voilà, un beau message d'avenir, effectivement, et donc des projets pour faire en sorte que ça soit mieux. C'est vrai que c'est un peu la tendance du moment que d'essayer de travailler ensemble, de mutualiser les actions, et c'est important, quoi, parce que
en même temps, avec un
c'est la solution.
Je trouve qui est vraiment intéressant et qu'il faut que les élus entendent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas institutionnaliser et créer une autre usine à gaz qui va gérer tout ça avec des services de l'État, avec des services du Conseil général, avec une autre administration qui va alourdir les processus, alors qu'on a déjà des praticiens, on a déjà des équipes, on a déjà des associations qui sont déjà sur le terrain, qui ont besoin simplement d'être aidées de façon supplémentaire, peut-être de se réorganiser sur un plan départemental, mais qu'on aide ces associations-là et pas qu'on recrée des structures. Parce qu'en France, je m'aperçois, moi, depuis une quarantaine d'années, en fait, que chaque fois qu'il y a quelque chose qui marque, qui marche, ouais, quand même, qui marche, et bien, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? On l'institutionnalise. Et on l'institutionnalise, mais on la rend administrative. Et du coup, on répond de moins en moins aux préoccupations des gens parce que l'administration a du mal à suivre et on sait bien comment ça marche. Et là,
ce n'est pas le cas.
Et en même temps, c'est vraiment intéressant. Dans la démarche, c'est vraiment ce qu'on veut maintenir. C'est justement, on peut avoir tendance à ça pour homogénéiser parce que sur le territoire, c'est toujours ça. À certains endroits, il y en a qui se sentent pénalisés par rapport à d'autres. Et du coup, on l'entend, ça. Enfin, c'est pour ça qu'on a évolué. Mais en même temps... on n'aura pas la même réponse à Villefort qu'à Mende, jamais, même si on veut essayer de développer les services et qu'on essaie quand même de rendre facile la mobilité à Villefort. Mais jamais, de toute façon, on lissera les pratiques complètement. Donc ça, c'est sûr. Et c'est
on
aussi
peut pas
pour
les
ça...
faire rentrer dans des cadres. Quoi.
Mais oui.
Et c'est aussi entre à Villefort comme à Mende, comme à Flora, comme à Saint-Chély, la personne sera écoutée avec la même... qualité d'écoute et la voilà ça
se et des solutions seront essayeront d'être
recherchées avec la personne complètement voilà.
Et alors c'est là que le partenariat avec les maisons de l'emploi il est pour en dire deux mots quand même parce que pourquoi eux c'est pas non plus c'est que ils sont déjà présents sur tout le département
ouais, pourquoi eux, juste, hein.
Je vais t'expliquer
et on salue Frédéric qui a le dos coincé et qui nous écoute.
La veille du forum de la mobilité, moi je tenais à le féliciter.
Oui.
Lui se coince le jour du forum de la mobilité. Bravo.
C'est beau quand même.
Monsieur Dumortier.
Il est bien
mais eux sont présents sur tout le département. Ils ont 9 antennes réparties sur le département. Ça fonctionne. Ils sont repérés par la population, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que ce n'est pas ciblé non plus. C'est quand même toute la population. Et du coup, c'était aussi... nous, on fait par exemple nos permanences d'Aloès sur les maisons de l'emploi. Ça fonctionne. Il y a l'accueil déjà qui est là. Et du coup, c'était aussi de s'appuyer sur ce qu'ils font déjà pour qu'on puisse... que notre action, elle n'arrive pas comme ça, comme ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec des choses qu'on va inventer. C'est qu'il y a des choses qui existent sur le territoire, mais du coup, on donne un coup de pouce aussi pour que ça puisse se renforcer. Et ces acteurs-là, sur les maisons de l'emploi, ils connaissent le territoire et ils sont des super relais, quoi.
Voilà, des projets qu'on suivra, qu'on retrouvera sans doute dans de futures éditions du MAG. Et on va vous remercier pour votre participation.
Merci.
Et on passe une deuxième page musicale. On se retrouve tout de suite après pour parler de ce que peuvent faire les collectivités en réponse aux besoins en mobilité exprimés par certaines personnes. Voilà, ça sera notre troisième partie tout de suite après la musique.
Changer de vie, changer de vision, partir, tracer son sillon. Si on cordon sillon, veut trouver son sillon. Et puis avec des si, avec des si, avec des sillons, prendrai jamais décision. Envie de toutes parts, mes peurs me soudoient. Je n'ai pas le courage de les regarder en face, vision toute pâle. Le remords me froid, je laisserai tant de chances derrière que je m'en sentirai coupable. Envie de changement. Viscéralement, plus de pansements, ni de faux semblants, plus de prétextes. Besoin d'emballement, il me faut vraiment partir pour le grand déménagement. Regarde à l'horizon, de la buée dans les yeux cache des larmes, des citations. Pris dans le tourbillon qu'on se desserre les maillons, c'est ma vie qui s'éloigne de ce que je suis et mes aspirations. Avance avec ça, le chemin se précisera, ne lâche pas, la solution se médite calme. Dans la difficulté, ne faiblis pas, garde à l'esprit que dans la vie, rien n'est inéluctable. Un nouvel ailleurs,
un nouvel ailleurs.
Désir de partir,
désir de partir.
Vers de nouvelles couleurs.
Que l'émerveillement soit à nouveau de la partie.
Vers un nouvel ailleurs,
un nouvel ailleurs.
Désir de partir,
désir de partir.
Vers de nouvelles couleurs,
nouvelles couleurs. Par, libère-toi, mes gardes, c'était mettons quelque part. Partir.
Tracer son sillon,
cordon sillon, veut trouver son sillon et puis avec des sillons, reverrez sûrement la position sur laquelle on s'est assis. Partir,
tracer son sillon,
sillon, cordon sillon, veut trouver son sillon et puis avec des sillons, avec des si, avec des si, on prendrait jamais décision. Partir, c'est changer, pour se retrouver. Se farcir le train à la caisse, tous les trajets. Partir même loin n'est pas synonyme de s'éloigner. Partir c'est vouloir construire sa vie, s'émanciper, même séparé par des immensités. Affronter seul la même intensité, forge les caractères et leur complicité. Mais faut
savoir changer d'air,
changer d'atmosphère,
se retrouver face à soi-même, donc changer de façon de faire, changer d'habitude, de routine et d'attitude, braver l'habitus, partir, changer de latitude, partir dans l'inconnu, courir sans retenue, sans dévier en liane, comme un Tarzan moitié nu, c'est s'enrichir de la culture de chaque coin de rue, partir, c'est garnir le contenu de tes points de vue, partir.
Ailleurs,
un nouvel ailleurs,
désir de partir,
désir de partir,
vers de nouvelles couleurs,
que l'émerveillement soit à nouveau de la partie,
vers
un nouvel ailleurs, désir de partir,
vers de nouvelles couleurs,
nouvelles couleurs, barbare, libère-toi mais garde tes mettons quelque part,
la vie est un combat,
chaque round je gagne au mental,
vaincre,
c'est faire des choix. Personne n'a le droit à t'empêcher de mettre tes voiles par part. Libère-toi mais garde tes mettons quelque part.
La vie est un combat.
Chaque round gagne au mental.
Vaincre.
C'est faire des choix. Personne n'a le droit à t'empêcher de mettre tes voiles par part. Libère-toi mais garde tes mettons quelque part.
Par. Tire-toi par. Tire-toi par. Tire-toi de là. Prends un nouveau départ. Tire-toi par. Tire-toi par. Tire-toi de là et prends un nouveau départ.
FM Le Mag.
On se retrouve dans cette troisième partie du Mag sur 48FM, un Mag spécial depuis l'IUP avec un certain nombre d'invités qui vont continuer à être autour de notre table pour parler de mobilité. Et cette fois-ci, on va parler un petit peu de besoins de mobilité avec des étudiants qui contribuent à l'organisation de cette journée. Et puis, peut-être on va d'abord vous interroger sur qu'est-ce qui pour vous, quelles sont vos difficultés en tant qu'étudiant, en tant que jeune en Lozère, pour vous déplacer et quelles solutions vous mettez en place pour vous débrouiller. Puis après, on verra avec deux collectivités, une locale et puis un exemple extérieur, comment les choses se font. Alors peut-être déjà nous dire un petit peu quelles sont vos difficultés au quotidien en termes de mobilité.
Donc bonjour, je suis en deuxième année au BTS Tourisme à Chaptal. Donc, je n'ai pas le permis. Et,
c'est mal, hein, ça, tiens.
Donc,
tu as quel âge ?
J'ai 21 ans.
D'accord.
Donc,
oui, c'est un peu normal. Même.
Bah, on peut l'avoir à 18. Hein.
Voilà. Donc, oui, c'est vrai. Je n'ai pas le permis, je n'ai pas de voiture. Donc, ça a été un peu compliqué pour moi au départ d'organiser mes voyages, vu que j'habite en Aveyron. Donc,
à quel endroit ?
À Sainte-Afrique, exactement.
Donc, après Millau, là-bas.
J'organisais d'abord mes transports en train en faisant Millau Marvejol-Mende puisque le transport est à 1 euro, donc la partie Marvejol-Mende. Donc au début, je ne le savais pas, donc je payais beaucoup plus cher.
Donc, ils ne vous l'ont pas dit à la gare
Non, parce qu'ils le disent uniquement à Marvejol. Ils le disent en fait dans le sens contraire, mais ils ne le préviennent pas à Millau. Donc voilà, donc déjà premier échec, perte d'argent, SNCF, perte de temps énorme aussi, puisque j'avais 2 heures d'attente à Marvejol. Donc je partais de chez moi à 3 heures, j'arrivais à 4 heures à Marvejol, et j'arrivais à 7 heures du soir à Mende le dimanche. Donc c'était compliqué. Sinon, j'avais la solution du lundi matin, comme je commençais les cours à 10h. Mais c'est pareil, c'était un peu difficile dans le temps, en fait. Donc ensuite, j'ai choisi la solution covoiturage, à l'aide du site donc Blablacar, avant de connaître le site voisine. Donc très facile d'utilisation, malgré bien sûr...
Lequel ?
Le petit défaut de la carte, en fait. Donc payer d'avance.
Ça, c'est pour Blablacar.
Blablacar, oui. Donc j'ai utilisé ce site. Donc, ça fait 3 ans maintenant que j'utilise ce site. Et c'est très bien desservi, Millau Mende. Je l'ai utilisé aussi pour faire Millau Montpellier, Mende Montpellier. Et l'année dernière aussi, quand j'ai dû aller faire le salon du tourisme à Toulouse, j'ai fait Mende Montpellier et Montpellier Toulouse parce que avec la SNCF, c'était vraiment trop trop cher. Et ensuite, j'ai découvert le site Voisine. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé pour faire un covoiturage, mais parce que j'ai rencontré donc, la présidente de l'association l'année dernière. Et j'étais curieuse, puisque c'est dans la Lozère. Et dorénavant, comme il a été amélioré, je pense utiliser plus facilement ce site-là. Puisque...
Donc pour vous, il y a plusieurs écueils, en fait. Il y a le problème de l'argent,
oui.
Hein, du coût du transport aujourd'hui, quand on est jeune et qu'on n'a pas, qu'on fait des études, on n'a pas beaucoup de revenus. Et le deuxième écueil, c'était le temps.
C'est-à-dire, le temps, ou les horaires. C'est quand même très mal desservi, Mende.
Et vous pensez être seul dans ce cas-là ou c'est partagé ?
Non, moi je sais que, exemple, moi je suis étudiant ici aussi à Mende et j'ai pas mal de problèmes. Donc moi je viens de Nîmes, donc déjà je trouve que les horaires sont assez mal placés. Exemple, on sort des cours, on doit attendre à peu près 1h15. Donc le problème c'est pas d'attendre, mais je veux dire, certains élèves qui sont pressés, qui sont obligés de rentrer chez eux parce que tout de suite après ils ont des correspondances. Ça fait quand même des problèmes, puisque derrière cela, il faut qu'ils remodifient leur emploi du temps, leur organisation. Et donc
ça, c'est au départ de
ça, de c'est Mende. Au départ de Mende, comme au départ de Nîmes. Quoi. C'est vraiment c'est les deux cas. Quoi.
Donc... Oui, il n'y a pas beaucoup d'horaires.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment
donc au final, bah, il faut s'adapter à là ou aux deux circulations de train.
Et donc Nîmes, vous venez en covoiturage ?
Voilà, c'est ça. Mais après, exemple, il n'y a pas le problème. Exemple ici, il y a le thune là, qui est mis en place, qui est pas mal, que je trouve qui est pas cher et en plus qui dessert bien. Le seul problème, le seul bémol, je dirais dans l'histoire, c'est que exemple, moi, je vais aux entraînements de rugby et qui au chapitre.
Et c'est le soir.
Qui finit tard le soir.
Voilà, finit tard le soir. Et
la troisième mi-temps qui finit tard, non
c'est pas... Non, moi je... Non.
je croyais que c'était... Voilà, c'était pour rentrer. Non, c'est pour
ça, c'est le week-end, c'est le petit vendredi, on va dire, c'est le petit digestif. Et non, ça fait plaisir, quoi, que voilà, ils nous déposent. Mais le problème, c'est que c'est toutes les demi-heures ou c'est tout de temps en temps. Et c'est pas
la fréquence, vous voulez dire,
voilà, c'est toutes ça, les demi-heures.
Voilà, c'est ça le truc. Et le problème, c'est que, exemple, si on a envie, on a besoin d'être vraiment sur place sur les 10 minutes qui viennent, on n'a pas, genre, exemple, je prends un Nîmes, bon, peut-être le budget est vraiment différent, quoi.
C'est toutes les et la population Nîmes, aussi. Voilà.
C'est surtout la population qui est différente. Hein, mais...
voilà, non, mais après, sinon, c'est bien, quoi. Je l'ai déjà utilisé, il est très bien, quoi. Il dessert facilement certains coins de la ville et même les moins accessibles.
Oui, puis après, à Mende, quand on est jeune, on est loin de rien, finalement.
Oh, bien sûr.
À pied ou en vélo, on va vite un peu partout.
C'est ça, voilà.
Moi, j'irai plutôt à pied.
Non, mais c'est vrai, ça va vite aussi.
Bientôt, Nathalie va nous vendre ses vélos électriques. Enfin, dans 2 minutes.
Traîner,
oui, je pense qu'on y est vite. Peut-être un troisième témoignage d'expérience de mobilité.
Donc moi, personnellement, je m'appelle Marie Rosello, donc j'ai une voiture. Donc déjà, c'est beaucoup plus simple. Pour moi, donc au début, quand j'avais pas encore ma voiture, j'allais à Millau. Alors pareil, je prenais le train.
Parce que tu es de Millau, c'est ça ?
Non, je suis région parisienne, mais je fais mes études.
Tu vas à Millau, tu t'es gouré de route. Hein.
Voilà. Je me promène en fait. Et du coup, c'est vrai qu'au début, c'est compliqué, notamment au temps. Enfin, ça dure très longtemps. En voiture, je mets 1 heure. En train, je mettais 3, 4, 5 heures. Donc c'est vraiment une grande différence. Niveau tarif aussi, c'était assez cher, comme Albal le disait. Mende Marvejols c'est 1 euro, mais quand on est à Millau ils ne le disent pas, donc c'est pareil, c'est de la perte d'argent. Donc après j'ai décidé de faire du covoiturage, mais en fait j'ai un peu peur des sites, que ce soit Blablacar, tout ça, Voisine, donc j'ai peur de faire de mauvaises rencontres. Du coup en fait j'ai fait par rapport, on va dire, au bouche à oreille avec des amis, donc j'ai fait du covoiturage avec des amis. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique, au moins on a confiance en la personne. Donc après ça a bien fonctionné.
Pour fixer les tarifs aussi, c'est plus intéressant. Ouais. Et du coup...
Tu peux négocier, c'est ça?
Ouais, parce que actuellement,
tu payes en nature, en beefsteak, en machin.
C'est, c'est, on peut plus facilement discuter du tarif et se mettre d'accord sur un prix.
Maintenant, moi, je fais du covoiturage, par exemple, pour Alba, et du coup, je fais des tarifs très généreux.
Qui n'ont rien à voir avec le tarif
en vigueur. Maintenant,
l'avantage
par rapport à l'année dernière, c'est que comme on est dans la même classe et que Marie a sa voiture, on s'organise en fonction des week-ends où elle rentre, je rentre avec elle aussi. Donc ça me fait un voyage.
Même si tu n'as pas envie de rentrer chez toi, tu rentres quand même.
Oui, voilà, c'est ça.
Ouais, c'est cool. Et alors peut-être justement, enfin, le regard d'un étudiant qui doit supporter un budget voiture, est-ce que c'est pas trop compliqué aussi, enfin, parce que ça a un coût d'avoir un véhicule cher, et bon, peut-être il y a les parents qui subventionnent, mais voilà, est-ce que, enfin, sur un budget d'étudiant, comment vous gérez ça?
Alors c'est sûr, c'est un coût, mais quand on prend l'exemple pour le train, donc on va dire 20 euros pour aller à Millau, donc 20 euros aller-retour, ça fait 40 euros. Pour la voiture, on va dire, je fais mon plein tous les mois à 30 euros. Donc sachant qu'il y a 4 week-ends, ça multiplie et multiplie. Donc pour moi, la voiture revient moins chère, même s'il y a l'assurance et tout. Avec tous les petits trajets qu'on fait en ville, tout ça, depuis que j'ai la voiture, je voyage beaucoup plus. Donc, je pense que ça...
Donc, c'est une mobilité accrue aussi pour toi, fait d'avoir un véhicule en Lozère. Et tu penses qu'être étudiant et pas avoir de véhicule, c'est quand même assez contraignant?
Bien sûr.
C'est ça,
ouais. Ah oui, sûr.
Pour une fois, les trois, on est d'accord.
Ouais, bien sûr. On le voit, nous, donc, l'année dernière, je n'avais pas encore ma voiture. C'était assez compliqué. Dès qu'on voulait quelque part, fallait voir selon les bus qui ne collaient pas forcément avec nos horaires. Après, pour rentrer, il fallait que ça soit à 7h-ci. On l'a loupé, mais on va faire 4 km à pied, ça fait c'est quand même beaucoup, on va dire. Du coup, maintenant, on peut aller visiter. Enfin, c'est quand même beaucoup plus pratique.
Oui, hein. C'est aussi effectivement l'occasion d'aller peut-être au dehors, monter sur le Causse, d'aller se balader.
D'avoir des concerts le soir ailleurs. Etc.
Voilà, c'est ça. C'est aussi cette. Sachant que sur tout ce qui est concert, il y a aussi quelques navettes. Faut le signaler, c'est l'occasion de le faire. Ouais. C'est vrai qu'on parle souvent de culture dans ce mag. Et il y a donc des navettes qui sont organisées sur un certain nombre de spectacles par les scènes croisées.
Oui, l'année dernière, pour le concert des Hurlements de Léo
à Langogne,
j'avais utilisé la navette qui est amenée et qui ramenait après jusqu'à la place du Foiret.
Ouais, ce sera pareil pour Alexis HK dans quelques jours. Voilà.
Ça, c'est bien.
Mais, merci de vos témoignages. Et puis, effectivement, on va voir avec Nathalie Fournier de la ville de Mende, donc élue à Mende, un petit peu les solutions qui sont mises en œuvre à Mende. Alors, elles ne sont pas forcément parfaites, mais en tous les cas, elles ne répondent pas forcément parfaitement aux besoins de mobilité de chacun. On l'a entendu dans les témoignages, mais il y a plein de choses aussi qu'on n'a pas forcément en tête. Alors, on parlait des fameux vélos électriques. Alors, peut-être que tu peux nous en dire deux mots déjà pour commencer, ou peut-être...
Ah, à froid, là. Alors oui, bien sûr, les vélos électriques, on peut en parler.
Non, mais parce que voilà, on avait une problématique...
Ça fait partie des chantiers qu'on a mis en place depuis plusieurs années, effectivement, une subvention à l'achat de deux roues électriques pour les habitants de la ville. L'idée derrière tout ça, c'était de développer la pratique du vélo et de désengorger le centre-ville. Bien entendu, l'idée, c'est de trouver des moyens de transport alternatifs à la voiture individuelle. Pourquoi ? Parce qu'ils sont moins polluants. Voilà. Donc nous, on essaye de mettre en place des choses. On essaye d'inciter en tant que ville. On peut pas. On se rend bien compte que c'est compliqué de changer les mentalités. On se rend bien compte que la voiture individuelle, ça reste quand même le moyen de déplacement préféré des Français. Et on comprend tout à fait pourquoi. Et voilà. En revanche, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer des alternatives et de proposer des aménagements qui vont dans le sens de ces alternatives-là.
Et si on est étudiant, est-ce qu'on peut demander à être subventionné pour son vélo électrique?
Alors, il faut habiter sur Mende, d'accord? Alors, si on est étudiant, surtout, on a des tarifs très intéressants pour le TUM. Hein, je crois que ça a été relevé tout à l'heure. Voilà, à destination des étudiants, c'est ça. Mais ouais, ce que je tiens à préciser avant tout, c'est que... les questions de mobilité, alors certes, on y réfléchit dans le cadre du développement urbain, on y réfléchit dans l'aménagement de voiries, etc. En revanche, c'est absolument pas une problématique mando-mandoise C'est quelque chose qui dépasse largement la ville de Mende. Et quand tout à l'heure les étudiants disaient qu'ils avaient du mal à venir effectivement à Mende en train, c'est qu'ils ont du mal à venir en Lozère en train. Voilà. Et on a du mal aussi à se déplacer en Lozère en train. Et ça fait partie des sujets qui nous tiennent à cœur.
On a même du mal à se déplacer en Lozère en bus.
Voilà. Donc c'est vrai qu'on peut voir à l'extérieur, même dans les départements voisins, le Gard notamment, qui a développé un système de bus sur tout le département, Edgar, qui est intéressant. Donc c'est vrai que la SNCF est ce qu'elle est aujourd'hui, les lignes sont ce qu'elles sont aujourd'hui. On a quand même, on est quand même tout à fait ravis des lignes de bus, des lignes SNCF, pardon, financées par la région Languedoc-Roussillon pour le transport à 1 euro, là, dont vous parliez tout à l'heure, Mende, Marvejols, etc. Et
on a constaté quand même un certain engouement des populations qui vivent dans la vallée du Lot qui viennent travailler à Mende avec le train 1 euro.
De Chanac, c'est possible. Il y a quand même des... Et c'est vrai que du coup, ça a redonné un petit peu du souffle à ce moyen de transport en commun et ça a redonné envie aux gens de le prendre aussi, il me semble.
Et peut-être à la SNCF d'investir, du coup.
En espérant que ça...
Sachant que c'est de la responsabilité de la région, en tous les cas,
sur l'utilisation. Même sur la région Languedoc-Roussillon, hein, sur d'autres départements, moi j'ai pas mal d'amis qui travaillent en bas, vers Frontignan, Béziers, etc., qui ont bossé sur Montpellier ou de l'autre côté, et qui utilisent tous les matins, et qui ont arrêté de prendre la voiture, parce qu'à 1 euro, aller-retour, 2
oui,
euros...
Oui, en général, c'est au départ, c'est financier, puis c'est en termes de fatigue aussi, quand on fait des longs trajets,
oui,
quand même. Mais c'est vrai que... Du coup, cet exemple des lignes à 1 euro, là, ça montre surtout, ce que je trouve positif, moi, dans cette initiative, surtout, c'est vu l'engouement, ça veut dire que les gens ne sont pas du tout fâchés avec le transport en commun et que même si on leur propose des choses qui sont à leur portée financièrement et qui correspondent à peu près à leurs besoins, eh ben, ils vont se débrouiller pour les utiliser. Et ça, je trouve que c'est plutôt un point très positif pour l'avenir de la mobilité durable, quand même.
Ouais, il faut que ce soit un petit peu compétitif, quoi.
Et oui.
Voilà. Et c'est vrai que le train en Lozère, c'est quand même sa grosse difficulté.
C'est ça, c'est compliqué.
L'autobus est de très bonne qualité, c'est un service.
J'ai pris plusieurs fois les transports donc avec l'autobus, donc la SNCF.
Oui.
Et je trouve que le service est de très bonne qualité en comparaison avec ce que j'ai vécu en Aveyron. Les chauffeurs sont très aimables, les bus sont très confortables et très propres.
Ouais, donc ça, c'est le service TER, notamment sur le Mende-Clermont-Ferrand, exploité par les établissements Trousseliers en partenariat avec Hugon Tourisme. Voilà. On va les citer, c'est aussi des entreprises locales qui contribuent à mettre en œuvre ces services pour le compte de la région. Alors peut-être d'autres actions.
Les actions, on les détaillera demain dans le cadre du forum de la mobilité. Hein, on aura le temps d'aller dans le détail. Nous, ce qu'on a fait, voilà, rapidement, on travaille en partenariat avec l'association voisine depuis sa naissance. Voilà, donc sur l'organisation de manifestations, l'idée là, c'est vraiment la promotion et la communication des modes de transport alternatifs.
Voilà, et l'initiative qu'évoquait tout à l'heure Evelyne Bouquera sur la zone du Causse d'Auge, c'est un partenariat entre vous.
Oui, c'est une commande de la ville de Mende, effectivement. Nous, on réfléchissait à la desserte du Causse d'Auge avec le TUM. Et Voisine nous a proposé quasiment simultanément un plan de déplacement inter-entreprise ou plan de déplacement de zone sous sa nouvelle appellation. L'idée c'est de vérifier un petit peu quels sont les besoins là-haut en termes de mobilité. Et du coup, c'est une étude, c'est une étude qui permet également de motiver les gens, de les faire réfléchir à leur façon de se déplacer et à essayer de trouver d'autres systèmes qui seraient peut-être plus avantageux pour eux.
Bien, alors peut-être deux mots sur le TUM.
Deux mots sur le TUM.
Il n'y a pas des lignes qui changent, non, bientôt?
Ah si, tout a changé, là. Oui,
voilà, c'est ça. Il me semblait bien avoir vu ça quelque part.
Le TUM, c'est le mot d'ordre, aussi, ouais. C'est optimisation annuelle. Non, en fait, avec le TUM, quand on a renouvelé la délégation de services publics...
C'est transport pour un mandois. C'était sur
transport urbain mandois.
Ah, c'est transport urbain mandois.
Le transport urbain mandois, donc le TUM... depuis quelques années, depuis la dernière délégation de services publics, en fait, on a doublé les parcours du TUM. Donc, on avait quelque chose comme 4 lignes. Et en fait, on est un petit peu exigeant avec notre délégataire de services publics, avec les transports boulés. Et on lui demande tous les ans
d'améliorer son service.
Voilà, et d'améliorer, etc. Et on fait un certain nombre d'analyses. Les parcours sont réétudiés annuellement. Du coup, cette année, effectivement, à la rentrée, la surprise, seulement deux lignes de tumes. Mais deux lignes de tumes qui couvrent exactement le même parcours et qui permettent d'avoir un tume toutes les demi-heures, c'est-à-dire une régularité qui permet une appropriation plus facile par les usagers quand même. Voilà, du coup, c'est plus simple.
On sait que c'est à telle heure, à 10 et à 40.
Par contre, les parcours sont un peu plus longs quand même pour les gens.
Peut-être, ça dépend.
Oui, oui, si, c'est plus long.
C'est l'expérience je parce que je de le Nicolas. Prends,
lequel voilà. Parcours, Nicolas?
Ah ben celui qui passe par Valcroze.
Celui qui passe par Chalut.
Jusque là-bas.
Non, il y a deux lignes qui parlent de Valcroze en fait. Il ne faut pas se tromper de ligne, Nicolas.
Ah ben voilà.
Tu ne dois pas prendre la bonne.
Si, j'ai pris la bonne.
Il y a deux lignes le matin qui parlent de Valcroze.
Et franchement, il faudra revoir ça.
Bon, et il y a aussi en projet, parce que ça concerne les transports, un pôle multimodal
dans les projets, oui. Alors effectivement, on a parlé du tube, on a parlé du vélo, mais tous ces modes de transport, il faut les faire cohabiter. Ça, c'est important. Et on a un projet, nous, à l'ancien garage Peugeot, Allée des Soupirs, qu'on a racheté il y a quelques temps. On a un projet
d'espace multimodal,
en fait. On a un projet d'espace multimodal de transformer ce parking en fait en
plusieurs modes de transport.
Voilà, en sorte de point de connexion de tout, et de combinaison, voilà, des différents modes de transport. Donc il y aura des espaces pour les voitures électriques, des espaces pour les voitures classiques, des espaces pour les vélos, des espaces réservés au covoiturage, d'autres pour les cars.
Et ça sera juste à côté, et c'est juste à côté de la gare.
Juste à côté de la gare.
Traverser l'Ot, mais
donc pour les voitures électriques.
Oui, mais il y a un pont, ça c'est la bonne nouvelle.
Pour les voitures électriques, il faut dire qu'il y a un partenariat avec EDF, voilà, pour mettre des bornes, pour que les gens puissent se connecter et laisser la voiture se recharger la journée pour repartir le soir.
Bien, est-ce qu'on a fait le tour un petit peu, Nathalie, de toute l'action?
Grosso modo, on a fait le tour des projets de ces dernières années.
Très bien, merci Nathalie. Et on va terminer cette émission avec Gwenaëlle Daudier de l'agence Écomobilité de Chambéry Métropole.
Bonjour.
Voilà. Bonjour, on va peut-être vous laisser nous présenter peut-être cette agence, ce qu'elle a comme mission, et puis après on parlera peut-être plus spécifiquement d'écomobilité scolaire. Alors dites-nous pourquoi Chambéry Métropole a créé une agence d'écomobilité et à quoi elle sert.
Voilà, donc l'agence Écomobilité est une association créée il y a 10 ans. Et elle a été créée à l'initiative de Chambéry Métropole, donc une agglomération, une collectivité locale, mais également à l'initiative d'une autre association, une association de promotion de vélos. Et c'est vrai que c'est la synergie, la convergence d'idées entre ces deux structures qui ont abouti à la création de l'agence Écomobilité. Donc l'objectif au départ de ces deux structures était de mettre en place un service de location de vélos à Chambéry. Donc l'idée date des années 90. Et la création de la structure a été en 2001. Mais très rapidement, l'objectif des élus ont été d'intégrer cette politique de développement du vélo à une politique globale de mobilité douce. Ce qui fait qu'un an après la création, du service de location, gardiennage de vélos, ont été mis en place des services de conseil aux entreprises pour favoriser les déplacements, pour aller au travail sans sa propre voiture individuelle, et conseil aux établissements scolaires.
Et ça donne quoi en termes de chiffres sur Chambéry?
Alors, quels chiffres vous voulez?
Est-ce
il y en a beaucoup.
Oui, je sais bien, mais... Est-ce que votre impact a un vrai résultat? Est-ce qu'il y a une montée en puissance? Est-ce que les gens aujourd'hui, dans le cadre de leur réflexion de se déplacer pour aller à leur entreprise le matin, vous contactent plus? Est-ce que vous avez mesuré votre action?
Ouais, alors c'est vrai que ça, c'est très difficile, cette mesure d'action, puisqu'on est dans le changement de comportement, et le changement de comportement prend beaucoup de temps. Donc moi, je suis en charge, en ce qui me concerne, de l'écomobilité scolaire. Du coup, plus précisément, du lien avec les écoles et des déplacements pour aller aux écoles. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur une stabilité, à savoir, on a une moyenne de 50% sur l'agglomération des élèves qui vont à l'école en voiture individuelle. Par contre, ce que j'entends, c'est que au niveau national, la courbe continue à augmenter. Et sur l'agglomération de Chambéry, elle augmentait dans les années 80-90. Donc aujourd'hui, on n'a pas de baisse. C'est notre objectif plus tard. Hein, mais on est sur une stabilité. Voilà.
Bien, alors, vous nous dites que vous êtes un peu spécialiste d'écomobilité scolaire. Peut-être en quelques mots, qu'est-ce qui se cache derrière ça ?
Derrière ce grand mot d'écomobilité scolaire.
Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on concrètement on peut faire autour de ça ?
Voilà. Donc, écomobilité scolaire, on l'entend très souvent sous le terme de plan de déplacement d'établissement scolaire. Donc, l'objectif de ces projets ou de ces plans, c'est d'établir une concertation entre les élus, une commune, les parents d'élèves et les écoles sur les déplacements pour aller à l'école. Donc la concertation commence par un diagnostic partagé. On fait un état des lieux sur les habitudes de déplacement des élèves aujourd'hui et surtout les freins pour utiliser d'autres modes de transport que la voiture. Donc l'objectif de ce diagnostic, c'est bien sûr de le porter à connaissance pour favoriser la sensibilisation des parents d'élèves. Et dans ce diagnostic, on a un volet sur l'accessibilité de l'école. Le parking à l'entrée de l'école et tous les cheminements des élèves pour aller à l'école, pour travailler ensuite avec la mairie pour sécuriser les accès, les cheminements pour aller à l'école. Donc à partir de ce diagnostic, on se pose pour élaborer un programme d'action. Donc c'est vrai que très souvent, au niveau de l'écomobilité scolaire, quand on parle d'écomobilité scolaire, on entend piédibus, vélobus.
Donc carapate,
pédibus, ouais. Voilà, qui est une organisation familiale pour, à tour de rôle, accompagner un groupe d'enfants à l'école. Mais on tient vraiment à préciser que pour nous, un plan de déplacement ne se limite pas à un carapate ou pédibus, vélobus. Donc, c'est une démarche de diagnostic, une démarche de partenariat. Et on peut aboutir à des formations aussi, des formations pour les enfants, pour qu'ils gagnent en autonomie, pour aller à l'école à pied, à vélo, et pour se déplacer dans la ville aussi, en dehors des cheminements pour l'école.
Si on veut aller plus précisément, par exemple, sur Chambéry, votre diagnostic qui a été fait, qu'est-ce que ça a donné, en fait ? Est-ce que le point de fragilité, c'est les parents ? C'est qui, en fait ? Pas forcément les parents, c'est les collectivités. Mais quand les collectivités sont d'accord, quand elles veulent mettre en œuvre quelque chose, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ?
Alors, niveau... l'une des difficultés essentielles, c'est le fait que les parents changent tout le temps. Et du coup, quand on a commencé à prendre des habitudes avec des parents qui commencent à mettre en place des actions, donc soit du covoiturage, soit du piédibus, soit d'être très actif pour des événementiels qui permettent de sensibiliser les autres parents d'élèves, ces parents, peut-être 3, 4 ans maximum, et leur enfant n'est plus à l'école. Et ensuite,
c'est la scolarisation de l'enfant.
C'est la scolarisation de l'enfant. Ouais. Du coup, il y a vraiment à chaque rentrée scolaire des efforts très importants à faire pour communiquer auprès des nouvelles familles. C'est le principal frein, vraiment, la principale difficulté pour pouvoir mettre en place des actions sur le long terme. Ensuite, c'est au niveau des aménagements, puisqu'on sait très bien que pour sécuriser des aménagements, il y a un budget, malheureusement, qui est souvent nécessaire. Et là, c'est quelque chose qui prend du temps. Et là, il y a vraiment, on se ressent vraiment une différence d'échelle de temps entre les parents d'élèves qui s'investissent, qui voudraient que les choses aillent très vite,
et les
élus pour lesquels le financement est le nerf de la guerre. Etc. On ne peut pas aller aussi vite que ça. Voilà. Et c'est vrai que si les cheminements sont sécurisés, c'est beaucoup plus facile pour mettre en place des choses. Voilà.
Nicolas. D'accord.
Donc, en fait, deux freins, c'est le temps de réaction des élus. Et des budgets, on va dire.
Plutôt, je dirais plus des budgets que de réaction des élus.
Sûrement qu'ils aimeraient que ça aille plus vite aussi.
Les élus aussi aimeraient que ça aille plus vite pour faire des aménagements. En général,
donc
ils sont
on va
bien
dire
d'accord.
L'administration qui a derrière tout, tout ça, sur les collectivités, encore une fois, l'administration. Et puis les parents et le changement de scolarisation des enfants qui passent de l'école primaire au collège et qui n'ont plus du tout les mêmes...
Voilà, je dirais autre chose par rapport aux parents, c'est que les parents sont vraiment pris dans une habitude,
et dans la facilité,
dans un cycle, à savoir le matin, j'emmène mon enfant à l'école pour aller au travail. Et ce qui est très difficile, c'est de réussir à toucher le parent pour lui faire prendre conscience, tiens, on peut peut-être faire les choses différemment. Et même si moi, je peux emmener mon enfant en voiture, en le déposant pour mon travail, s'il y allait à pied, ça lui ferait vraiment du bien, et pour sa santé et pour son autonomie. Du coup, je vais essayer de voir comment je pourrais le laisser aller à pied, même si moi, je prends ma voiture pour aller à l'entreprise. Donc vraiment, la difficulté, c'est de réussir
à les convaincre,
à l'interpeller. Puisqu'on sait bien qu'on peut organiser des réunions, mais si on n'est pas déjà interpellé sur le sujet, on ne va pas aller à cette réunion. Voilà. Et quelque chose qui nous semble très important, et pour lequel Chambéry Métropole s'est donné comme priorité dès le lancement des projets d'écomobilité scolaire, c'est les interventions pédagogiques dans les écoles pour former et sensibiliser les enfants. Du coup, dans le temps scolaire, des animations piétons pour apprendre à se déplacer dans son quartier en sécurité, des animations vélo pour apprendre à réparer son vélo, à faire du vélo en sécurité, et aussi pour les sensibiliser tout simplement aux enjeux des déplacements dès le plus jeune âge, dès la maternelle, sur pourquoi on se déplace, comment, quel est l'intérêt de se déplacer autrement qu'en voiture.
Tout un programme, quoi, qui peut rentrer un petit peu aussi dans le cadre des rythmes scolaires. Est-ce que Chambéry a intégré ça dans le cadre des rythmes scolaires, l'aménagement d'un rythme scolaire?
Alors effectivement, c'est une réflexion, bien sûr, on y réfléchit en ce moment. Ensuite, pour nous, l'état de réflexion actuel, je dirais qu'il est peut-être ma propre réflexion. Je ne parlerai pas au nom de Chambéry Métropole, avec qui on ne s'est pas encore positionné sur le sujet. Mais c'est que dans le cadre des rythmes scolaires, on interviendrait du coup sur des temps hors scolaire même. Donc soit entre midi et deux, soit
le soir.
Et pour nous, c'est des temps d'intervention qui sont intéressants, mais complètement complémentaires et différents par rapport à des temps d'intervention en classe. Les élèves ne seront pas dans la même disposition si c'est une intervention en classe ou si c'est, qui est ancrée dans les programmes scolaires, ou si c'est des interventions en périscolaire. Les deux nous semblent intéressantes. Pour l'exemple du vélo, par exemple, sur le temps périscolaire, on va vraiment avoir la dimension du plaisir et de donner le plaisir aux jeunes de faire du vélo et l'envie de faire du vélo. Sur le temps scolaire, l'enfant sera peut-être plus attentif sur la sécurité, comment je me déplace en sécurité, etc. Du coup, les deux temps d'intervention sont complémentaires, mais il ne faudrait pas que les rythmes scolaires fassent qu'il y ait un transfert d'intervention.
D'accord. Faire en sorte que l'absent de ce soir, en fait, qui est éducation nationale, mais qui n'est pas absent par défaut, hein. Parce qu'en fait, elle a quand même un rôle important et qu'elle met en œuvre par la ROEVEN et par d'autres organismes qui interviennent au sein de l'école et dans le temps scolaire pour l'éducation à la circulation et à la mobilité. Ouais. Alors, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais on a tous fait ça, quoi. Se déplacer en vélo, apprendre les panneaux, donc ça fait partie de l'enseignement de base. Après, c'est peut-être de voir justement comment sensibiliser, parce que les enseignants sont quand même 8 heures face aux enfants, entre 7 et 8 heures tous les jours. Ils sont une force de proposition et d'arriver à convaincre à la fois les parents dans le cadre des conseils d'école, à la fois de convaincre les enfants que c'est aujourd'hui, il faut passer à ces nouvelles modes de transport et de mobilité. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire justement avec l'éducation nationale au sein de la formation? Parce que moi, j'ai le sentiment que, enfin, je vois beaucoup d'enseignants, ils vont tous à l'école en bagnole, quoi. Il n'y a pas beaucoup qui vont à pied. Donc comment on peut transmettre comme ça sans être directement consciente de son impact ou même si on l'est, de pas arriver à faire le pas.
Alors là, effectivement, vous touchez quelque chose d'essentiel. Et quand vous parliez des difficultés rencontrées ou des éléments un peu plus faciles, pour nous, si le directeur d'école porte le projet avance beaucoup plus vite et est beaucoup plus efficace que si on est sur une commune où il n'y a que la mairie qui porte vraiment le projet, mais pas le directeur. Parce que c'est vrai que les enseignants, c'est eux les vecteurs avec les enfants, avec les parents, etc.
Donc c'est un appel, hein, Nathalie Fournier ? C'est un appel aux enseignants pour...
Un appel aux enseignants, bien sûr. Hein. On avait déjà réfléchi avec Madame Bouquera, avec l'association voisine. On a testé même des carapates sur la ville de Mende. On a réfléchi à des aménagements. Voilà,
Continue à y réfléchir.
On continue d'y réfléchir et en fait, on attend des signaux quand même.
mais voilà, ce qu'on peut peut-être dire, c'est justement le choix dans le programme de demain d'avoir cet atelier l'après-midi qui va être aussi autour de ces questions, va forcément aussi sans doute déboucher sur des concrétisations, en tous les cas on l'espère, c'est le but j'imagine de voisines avec cet atelier pour susciter des choses.
Oui, effectivement, parce que on se rend compte qu'il y a besoin de beaucoup sensibiliser l'éducation, les parents, les directeurs d'école, pour qu'ils intègrent en fait la mobilité dans leur travail d'études, dans leur travail d'école. C'est très 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 difficile. Et alors qu'il existe des outils.
Oui. C'est pas inscrit au programme de façon très claire. Hein. C'est
non,
pas...
mais il y a ça plusieurs.
Mais par contre, on peut effectivement s'en servir un peu dans tout, dans la spatialisation, se repérer dans la ville.
Voilà, tout à fait. On peut le rentrer dans la géographie parce qu'on va réfléchir au trajet de chacun. On peut le rentrer dans différentes matières qui sont étudiées à l'école. Mais ce n'est pas vers là que les projets d'école vont. C'est difficile d'intégrer. Pour eux, ce n'est pas une matière. Ce n'est pas un sujet qui va permettre justement d'intéresser les enfants. Donc, c'est justement en parlant et en montrant qu'il existe des outils, puisqu'il existe des manières d'intervenir en classe, c'est en montrant que ça existe que ça va permettre d'ouvrir des portes dans les écoles en Lozère.
Est-ce qu'il n'y a pas le sentiment, peut-être une question comme ça, est-ce qu'il n'y a pas le sentiment qu'en fait on est en train de revenir en arrière ? Moi j'ai le sentiment qu'il y a des gens pour qui ça ne fait pas partie de la modernité de notre société que de revenir à des moyens de locomotion où on va marcher à pied, où on va venir en vélo, où on a l'impression de revenir avant la guerre. Et ce qui me fait dire ça, c'est que souvent les grands-parents disent, par exemple, à leurs petits-enfants, « Mais moi, j'y allais à pied à l'école, hein, ou j'y allais en vélo. » Et je me faisais 3-4 km en vélo. Et le fait de revenir à ça, j'ai le sentiment qu'il y a des parents qui estiment qu'aujourd'hui, ce n'est pas moderne.
C'est-à-dire que là, souvent, c'est vécu comme une contrainte quand c'est rapporté comme ça, alors qu'en fait, se déplacer autrement, ce n'est pas forcément une contrainte.
Ouais, c'est vrai que c'est pour ça qu'on essaye vraiment d'axer vers le plaisir et de montrer l'impact sur la santé aussi. La santé donc par rapport à la pollution, mais aussi par rapport à l'activité physique.
Et d'accord, de montrer que c'est un plus, c'est pas un
voilà
retour
que
en
c'est
arrière,
que c'est un plus et que c'est plutôt une nouvelle modernité.
Nouvelle modernité.
Et voilà. Puis il y a beaucoup de pression. Les parents, ils veulent de la sécurité, ils veulent aller vite, ils sont pressés, ils doivent aller au travail, il ne faut pas qu'ils soient en retard.
Oui, mais la
donc le plus rapide, c'est de prendre la voiture, de mettre les gosses dedans et de les déposer devant la porte.
On a des fonctionnements en famille qui sont compliqués aujourd'hui aussi. Hein, pour expliquer ça aussi, c'est que souvent les gens, quand ils ont des enfants en bas âge, d'âge différent, c'est compliqué. Il faut qu'ils jonglent entre les nounous, entre les écoles, entre les. Le boulot du papa, le boulot de la maman, et voilà.
Et puis le travail. Et puis être moderne aujourd'hui, on nous l'a quand même dit pendant très longtemps, c'est d'être efficace hein, et de produire, et donc d'avoir un rapport entre le temps qu'on passe à faire les choses et la production. Donc plus vite on amène les enfants à l'école, plus vite on a le boulot, plus vite on revient du boulot, plus vite on peut s'en occuper. Et c'est vrai qu'on est vraiment, tu le disais, Evine, dans cette vitesse, on vit à 1000 à l'heure, on prend plus le temps de faire les choses et c'est pas très compatible avec notre corps.
Mais justement, on dit bien qu'il est nécessaire de faire une pause, D'ailleurs, pourquoi y a-t-il des pauses, même au travail, après 4 heures de travail ou 6 heures, je ne sais plus. C'est bien justement parce qu'il faut arrêter d'aller trop vite et essayer de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait.
Oui, puis de penser à son corps, quoi, parce que...
Exactement. Et c'est vrai que quand on travaille du coup en écomobilité scolaire, il y a vraiment un travail à faire en parallèle directement avec les plans de déplacement entreprise pour sensibiliser et leur donner des outils pour aller au travail autrement qu'en voiture.
Voilà, on l'a compris, les mobilités, c'est un sujet qui touche finalement tout le monde, des petits jusqu'aux grands, dans tout le fonctionnement. Mais oui, on en a parlé tout à l'heure avec le transport à la demande. Enfin voilà, il y a besoin de répondre à plein de choses aussi dans ces aspects de mobilité. Donc c'était un sujet qu'on souhaitait justement sur lequel on souhaitait faire un focus à l'occasion de ce forum mobilité organisé par Voisine Amende. Et donc on a fait ce magazine spécial. On vous remercie de l'avoir suivi avec nous. Merci à tous nos invités qui sont venus autour de nos deux tables ici dans le hall de l'IUP. Donc voilà, c'était hier soir, vous qui nous entendez ce mardi midi. Et on vous souhaite une très bonne semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau mag en direct cette fois-ci.
Voilà, et puis vous pourrez écouter ce magazine en podcast.
Jeudi à 18h11 à l'antenne et également samedi à 11h. Voilà. Et puis on va profiter aussi de dire que c'est une autre forme de mobilité, c'est on essaye de faire venir des gens s'installer et en tous les cas créer des projets en Lozère. Ça sera la start-up et dans le pré ce week-end, un dispositif spécial sur 48FM avec deux grandes émissions, une samedi à 13h et une dimanche à 19h, et puis des petites cartes postales qui seront égrenées pendant tout le week-end, des cartes postales sonores bien sûr. Soyez à l'écoute ce week-end de 48FM, vous entendrez des choses qui un petit peu différentes sur cet aspect-là, et on sera depuis la Barrique des Bouviers, donc tout au nord de notre département. Voilà. Bonne.
Il y a un ski de fond bientôt.
Oui, bientôt.
En fait, c'est des chefs des CEP que vous allez chercher.
Bonne semaine à tous et à très bientôt.
Semaine, merci.
Au revoir.